Patrick Bataillard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur financier d'Edenred. Nous sommes au Forum Odo. Vous avez rencontré des investisseurs. Qu'est-ce que vous leur dites des derniers mois d'Edenred? Parce que ça a été, il y a eu deux événements qui ont été pas forcément prévisibles. Vous avez été victime d'une attaque, l'entreprise a été victime d'une attaque informatique. Et il y a eu un sujet par rapport à la concurrence, que vous contestez d'ailleurs. Ces deux événements-là de fin d'année, ça a un peu perturbé, on va dire, l'année 2019 d'Edenred.
Alors en effet, oui, c'est deux éléments d'actualité qui sont assez importants et qui en interne nous ont pas mal mobilisés, évidemment. Ça clôture une année 2009 qui est une très bonne année à nouveau, qui sera en termes de progression et de résultats une année record. Mais enfin, les années précédentes étaient aussi des années records, c'est en soi une bonne nouvelle. Et effectivement, si je reviens sur ces deux éléments, on a une attaque de cybercriminalité qu'on a, je pense, plutôt bien gérée et dont on peut parler au passé, mais qui nous a très occupés pendant quelques jours, qui, je crois, doit nous rendre modestes en fait, sur le fait que nous pouvons, comme beaucoup de grandes entreprises, être sujets à ce genre d'attaque. En fait, hein. En tout cas, il y a beaucoup d'enseignements, je pense, qui nous seront utiles pour l'avenir. Et puis, nous avons effectivement été notifiés d'une décision de l'ADLC pour la France, en fait, autour d'une présumée entente qui fait l'objet d'une sanction extrêmement lourde en fait, et que nous contestons. Nous ferons appel de cette décision, ce qui veut dire très concrètement que nous allons décaisser le montant de l'amende, puisque cette décision est exécutoire, mais que nous allons fortement contester en fait son fondement.
Donc ça peut avoir un impact sur les résultats 2019 de ce fait ?
Je ne sais pas répondre à cette question aujourd'hui dans la mesure où, comme nous contestons fondamentalement et le fond et le montant de cette amende, en fait, le montant de la provision éventuelle que nous pourrions doter en 2019 n'est pas encore décidé à ce jour. À l'évidence, elle sera nulle ou faible, en l'occurrence. En revanche, ça aura un impact sur le cash de la société en 2020, puisque nous allons décaisser ce montant. Même si ce montant est extrêmement significatif par rapport à la taille de la France, qui n'est pas, loin s'en faut, le plus gros pays du groupe, ça veut dire quand même, pour rebondir sur un sujet positif, ça ne change rien ni à la politique de dividendes du groupe, ni grosso modo à sa capacité d'investissement, fort heureusement d'ailleurs.
Voilà, oui, c'est ce que regarde aussi de près. Est-ce que le dividende sera maintenu? Ça fait partie, on le sait, des demandes des investisseurs. Sur l'activité elle-même, justement, sur quand on regarde au niveau mondial, la tendance reste positive, ce que vous disiez finalement?
Oui, écoutez, je pense qu'on aborde les années qui viennent, et 2020 en particulier, cette nouvelle année, de façon prudente, par réflexe, mais aussi parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit et dans lequel on travaille est un peu perturbé. Nous, on reste très positif, en fait. On reste très positif parce que, d'une part, la footprint géographique du groupe fait que, même si facialement, on peut être confronté à une situation un peu plus difficile dans tel et tel pays, bah, le fait qu'on opère dans 46 pays fait qu'en fait, on a la chance de faire de belles affaires ailleurs. Et par ailleurs, en fait, nous avons les trois dernières années, puisque nous venons de finir un business plan triennal, souffert quand même d'une situation assez négative au Brésil, qui est le plus gros pays du groupe Edenred, dont on est très bien sorti. De notre point de vue, le Brésil entre actuellement dans une phase de recovery qui est plutôt durable, nous semble-t-il, ce qui compense le fait que les affaires seront peut-être un petit peu plus difficiles dans d'autres pays. Donc au global, en fait, nous avons réitéré récemment dans le cadre d'un Investor Day notre vision optimiste de la croissance durable et profitable, et de notre capacité à produire beaucoup de cash, parce que c'est une des caractéristiques de notre société, qui devrait être aussi favorable dans les trois ans qui viennent que ce qu'on a pu faire les trois dernières années.
Oui, parce que l'environnement, pour parler de 2020, on a à la fois la guerre commerciale Chine-États-Unis, même si on nous promet qu'en janvier, ça y est, tout ira bien, mais bon, on est un petit peu prudent vu ce qui s'est passé en 2019, en tout cas quand on en parle avec les entreprises. Et puis, il y a des sujets géopolitiques. Donc voilà, il y a un contexte peut-être un peu moins favorable sur le plan économique. C'est un petit peu ça qui est aussi dans le viseur.
Oui, je pense qu'il faut être effectivement raisonnable par rapport à ce contexte macroéconomique et macropolitique également. Deux des plus gros pays du groupe sont des pays dans lesquels le président a changé récemment, le Brésil et le Mexique par exemple. L'action politique de ces nouveaux présidents et de ces nouveaux gouvernements n'est pas encore totalement comprise. À côté de ça, je crois que ce qui a fait vraiment la croissance de notre groupe ces dernières années et qui nous amène à un grand niveau de confiance pour les années qui viennent, c'est le fait qu'on a la chance finalement dans beaucoup de pays d'être dans des situations de marché sous-pénétrés avec un gros impact positif amené par la digitalisation progressive de nos solutions, qui nous procure entre autres un assez gros avantage concurrentiel. Donc le mix d'une situation macroéconomique un peu moins lisible et d'une capacité clairement identifiée à faire mieux sur nos marchés existants nous rend au global, nous, plutôt positifs.
Donc les activités existantes vont continuer à progresser. Mais effectivement, voilà, il y a ce type de marché où, finalement, qui pourraient peut-être, eux, passer au digital un peu plus rapidement.
Alors oui, pour quelques pays, en effet, le shift vers le digital n'est pas complètement fini, donc c'est un facteur d'accélération de croissance. Et pour les pays dans lesquels la mutation digitale est complètement faite, ce qui est intéressant dans notre modèle, c'est qu'en fait, dans notre modèle qui est du B2B2C, nous vendons à des entreprises qui nous donnent accès finalement à des solutions, au travers de solutions qui sont designées pour leurs collaborateurs. Fondamentalement, le driver important pour l'avenir, c'est sans doute de faire de telle sorte que nous nous adressons davantage à ces utilisateurs qui ne sont pas que des utilisateurs, mais qui deviennent des clients, c'est-à-dire des individus à qui on peut vendre des services dont ils ont besoin et pour lesquels, évidemment, on toucherait une rémunération.
Il y a effectivement, à partir de cette plateforme-là, des possibilités d'élargir aussi l'offre de services.
Oui, en effet, oui. Enfin, c'est toute la beauté et la magie du digital. Le fait d'être en connexion quotidienne ou presque avec environ 50 millions d'utilisateurs au travers de 830 000 entreprises clientes doit nous donner la possibilité, encore une fois, de vendre des choses intéressantes à ces utilisateurs. Et puis, grâce au digital en particulier, d'intermédier la relation entre ces utilisateurs et les commerçants affiliés avec lesquels nous nous mettons en relation, ce qui doit un jour ou l'autre aussi nous donner l'occasion de faire de telle sorte que ces utilisateurs n'utilisent pas au travers de nos solutions que ce qu'on appelle l'argent fléché, c'est-à-dire l'argent qui leur a été attribué par leur entreprise, mais également utilisent dans une certaine mesure leur propre argent pour toujours bénéficier des discounts qu'on a pu obtenir auprès de ces retailers. Donc c'est le début d'une histoire. On a pas mal de réalisations qui sont intéressantes déjà, mais nous sommes assez confiants dans notre capacité à en multiplier les effets.
Mot de la fin, il y aura forcément des croissances externes au-delà de cette croissance organique à venir. Est-ce que le contexte est peut-être s'y prête un peu plus ou pas?
Edenred est une société qui depuis longtemps en fait établit et bâtit sa croissance autour d'un mix de croissance organique et de croissance externe. En fait, notre stratégie qui est assez simplement exprimée, ça consiste à démarrer de nouvelles solutions, de nouveaux pays parfois de façon organique. Et quand on a une conviction comme quoi il y a un marché intéressant pour nous, d'avoir recours à la croissance externe pour aller plus vite. C'est ce qu'on a toujours fait, c'est ce qu'on continuera à faire. D'autant qu'on en a les moyens, on a une capacité d'investissement d'environ 1,5 milliard, et d'autant qu'en fait, on a une grosse capacité à produire du cash, ce qui veut dire que ce levier potentiel restera très important et continuera à s'accélérer. Est-ce qu'il y a une actualité particulière sur le sujet? Non, il y a beaucoup de pipeline, il y a beaucoup d'opportunités que nous mettons à l'étude. Mais je suis dans la quasi-impossibilité dans notre secteur d'activité de vous promettre qu'on va faire une acquisition tous les mois. J'aimerais beaucoup, mais ce n'est pas possible en l'occurrence.
Merci beaucoup Patrick Bataillard d'avoir été avec nous.
Merci de votre accueil et de vos questions.